Chapitre 66. La cité souterraine avait retrouvé sa paix. Nous n'y étions plus que quatre. Ce silence et l'obscurité revenue nous renvoyaient d'autant plus à notre solitude nouvelle. Est-il fréquent que le sage ait ce genre de prémonition? Nathan réfléchissait déjà à la suite. Autant que n'importe qui d'autre, il possède simplement les moyens de les comprendre. C'est d'ailleurs juste une intuition, rien de précis. Et toi et moi avions tous les deux ressenti la même chose auparavant. Nous avons eu une impression, seulement une impression. C'est vrai. C'est aussi pourquoi je suis davantage inquiet depuis qu'il m'en a parlé. Ce qui m'effraie, c'est la façon très inhabituelle dont il m'en a fait part. Il ne t'a rien dit d'autre, juste des visions de violence, de sang et de lumière? Avec un danger de mort, mais il n'a pas été capable de dire ni pour qui, ni dans quelles circonstances. Le seul risque vient de l'entrée des novices. Les autres accès ont été remurés et dissimulés. Voilà pourquoi je te proposais d'aller tout de suite avec nos deux compagnons replacer la dalle au-dessus de l'entrée de la crypte. Le trou n'est caché que par des branches sans feuilles, c'est un peu léger. Mais tu étais certain de ne pas avoir été suivi quand tu es revenu. Mieux vaut ne rien négliger. La ruelle avait retrouvé son aspect du premier jour. Le parfum de terre et de bois sec avait déjà repris la place que la chaleur dégagée par le matériel informatique en fonctionnement et l'odeur du papier des imprimantes lui avait un moment volé. Les faisceaux de nos lampes frontales oscillaient quelques mètres devant nos pas. Nous expliquâmes notre projet aux gardes et prîmes tous les quatre le chemin de la galerie des novices. Nathan ne se montrait pas inquiet de ce qu'avait dit le sage. Il semblait plus attaché à comprendre comment lui venaient ces visions qu'à prendre conscience de leur contenu. Nous avancions en silence. Les deux gardes, qui découvraient ce tunnel pour la première fois, observaient chaque piège avec attention. Arrivés à l'escalier du concierge, ils posèrent de nombreuses questions sur la monstrueuse sculpture, puis sur les fresques qu'ils découvrirent ensuite. La chute progressive de la température annonçait notre prochaine arrivée à la crypte. Nous parlions toujours, nous faisions du bruit. Beaucoup trop. Le plus grand des deux gardes posa brusquement la main sur mon épaule, portant l'index de son autre main devant sa bouche pour nous intimer le silence. Nathan et moi stoppâmes aussitôt. Nous n'étions plus qu'à quelques mètres des restes du faux mur séparant la galerie de la crypte. Les gardes passèrent entre nous en dégainant. Ils se déplaçaient sans un bruit. Nous entendîmes alors un craquement venant de l'extérieur, puis quelques instants plus tard, le clic étouffé d'une portière de voiture que l'on referme discrètement. À cette heure tardive, il ne pouvait s'agir de promeneurs. Je m'approchai avec précaution des gardes et leur soufflai « Reculons. Nous ne savons pas combien ils sont. C'est trop risqué. Il vaut mieux retourner vers la cité. S'ils entrent, ils devront affronter les pièges. » Les gardes acquiescèrent. Nous fîmes demi-tour. Le premier carrefour dépassé, je fis signe à tout le monde de s'arrêter. Je ne sais pas comment ils ont pu arriver là. J'aurais juré qu'ils tiendraient leur promesse. Nathan semblait à présent bien conscient de ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les pièges vont suffire? Certains peuvent les arrêter, d'autres les perdre. Je pense en particulier aux bifurcations pour... Je fus interrompu par les échos d'un jappement. Merde, ils ont des chiens. Nous nous mîmes à courir le plus vite et le plus silencieusement possible, les uns derrière les autres. Quand nous arrivâmes au second carrefour, je ne suivis pas mes compagnons et obliquai vers la droite. Je m'arrêtai moins d'un mètre avant l'oubliette, rebroussai chemin, revins au carrefour et répétai l'opération dans les autres galeries. Nathan ressurgit bientôt avec l'un des gardes. « Qu'est-ce que tu fous ?»« Si les chiens n'ont qu'une trace à suivre, ils éviteront les pièges. Si je m'engage dans tous les tunnels possibles, ils auront le même dilemme que leur maître. » Allez, on continue. Nous étions déjà à hauteur des fresques de l'escalier du diable. les bruits de nos poursuivants nous parvenaient plus nombreux et plus proches. Il y avait au minimum deux chiens, et les hommes qui les accompagnaient parlaient assez fort pour que l'on perçoive des échos de leur conversation. Nous remontions l'escalier du concierge lorsqu'un hurlement résonna dans les couloirs. Les cris d'un homme et d'un chien mêlés, la longue clameur que pousse quelqu'un qui chute dans le vide. Puis, au moins trois voix différentes appelèrent un prénom. L'un d'eux a dû tomber dans une oubliette. Un de moins. Nous reprîmes notre course. Les murs défilaient. Les faisceaux de nos lampes dansaient du sol au plafond. Nous dépassâmes l'escalier toboggan et le plafond de salpêtre en prenant garde de ne pas glisser. Je sentais monter une crampe dans mon mollet gauche. Nos poursuivants avaient repris leur chasse. Il était pratiquement certain qu'ils nous avaient entendus. Nous débouchâmes sur le grand carrefour. Je stoppai, enlevai mon sac à dos et l'ouvris. « On va se séparer, » dis-je aux gardes. « Nathan et moi allons les attirer vers le moulin. Il y a assez de place là-bas pour qu'on ait une chance de leur échapper. Vous, vous les empêchez de pénétrer dans le reste de la cité. Si par malchance ils venaient à s'engager sur une autre voie que celle du moulin, abattez-les. » Je vis passer dans les yeux de Nathan une expression complexe, mélange de choc en m'entendant donner un tel ordre et d'incompréhension. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Je ne pouvais pas me permettre d'état d'âme. Je fouillai dans mon sac tout en continuant à parler. Si vous êtes obligé de les poursuivre dans une autre direction que la nôtre, marquez les tunnels dans lesquels vous passerez d'une pierre placée à la droite de l'entrée. Les gardes acquiescèrent. Nathan me dévisageait. Je sentais qu'il voulait me parler et je savais ce qu'il allait dire. Je trouvai enfin la cartouche de fumigène blanc de 1200 mètres cubes prévue à l'origine pour repérer les endroits où débouchaient les conduits d'aération. À peine plus grosse qu'une boîte de conserve, elle allait nous permettre d'enfumer le grand carrefour, ne laissant plus d'autre choix aux hommes que de se fier au flair des chiens et de nous poursuivre vers le moulin. Je dégoupillai l'artifice et l'épaisse colonne de fumée commença à s'élever en larges bouffées sous la voûte. Nos poursuivants approchaient. La perte de l'un des leurs avait dû renforcer leur détermination. Les gardes se postèrent chacun à une extrémité du grand carrefour. La fumée limitait à présent la portée des faisceaux des lampes. Encore quelques instants, et on ne pourrait plus voir au-delà de 2 mètres. J'attrapai mon sac à dos et fis signe à Nathan. Nous repartîmes côte à côte, laissant derrière nous l'immense nuage blanc s'épaissir peu à peu. Nous enchaînions tunnel après tunnel. « Pourquoi les tuer ?» demanda Nathan sans cesser de courir. « Tu parlais de la valeur d'une vie juste avant d'aller sauver nos ennemis. Et maintenant ?» L'éboulement était un accident, pas un combat. D'accord, ils voulaient percer le mur, mais ils n'avaient pas encore réussi. S'ils y étaient parvenus, j'aurais donné les mêmes instructions. « Tu dois avoir une riposte adaptée à l'attaque. Ils percent la galerie, on construit un mur. En l'occurrence, ils ne se contentent plus de faire des trous à la dynamite. » Ils renient leurs paroles et nous envahissent. On n'est plus du tout dans le même cas de figure. Mais si ça se trouve, ils ne sont pas armés. T'en es vraiment convaincu? Tu es prêt à prendre le risque? À aller leur expliquer qu'ils doivent ressortir parce qu'on s'était mis d'accord, en gardant bien entendu le secret de ce qu'ils ont vu? Non, ils sont là pour nous battre et piller ce qu'ils pourront. Je n'aurais pas cru ça d'Habermeyer. Crois-moi, si on échoue, on ne reverra jamais la lumière du jour. Si nous n'étions pas restés cette nuit, ils ne nous auraient pas trouvés, et il n'y aurait pas eu de problème. Ce n'est pas parce que nous sommes restés qu'ils ont localisé l'entrée de la galerie des novices. Si on était reparti avec les autres, ils se promèneraient ici librement à l'heure actuelle, en cherchant des conneries à faire. Nathan réfléchissait en silence. J'insistais. Nous n'avons eu jusqu'ici aucune perte humaine à déplorer. Peu de batailles aussi importantes ont exigé si peu de sang. Pour notre part, nous avons tout fait pour éviter l'affrontement. Ils trahissent leurs paroles, c'est leur choix. La paix de ce lieu a un prix qui s'impose de lui-même. Leur silence, pour toujours. On aura leur mort sur la conscience. On assume nos décisions. On devra effectivement vivre avec ça. Mais on aura aussi garanti la pérennité de cette cité et nos vies. Nous n'attaquons pas, nous ne faisons que défendre. Tu n'es d'ailleurs pas obligé de participer. » Sans le vouloir, je l'avais vexé. Il répliqua, « Comment peux-tu dire ça ?»« Excuse-moi, je voulais juste te dire que tu avais le choix. » À chaque carrefour, nous nous répartissions entre les différentes galeries pour répandre notre trace dans toutes les directions. On aurait cru un de ces vieux films comiques en noir et blanc, où les acteurs ont des mouvements saccadés et se poursuivent dans les hôtels en déboulant par toutes les portes sans aucune logique, se croisant dans les couloirs sans jamais se rattraper. Deux coups de feu claquèrent. Leur écho emplit le tunnel. Tu souhaites toujours aller leur parler ? Nous dévalâmes le couloir des aimants géants et dépassâmes la fosse aux pieux. J'aurais bien voulu être là quand ils passeraient avec leurs armes. Nous franchîmes la première grille que je refermai derrière nous. On n'a pas la clé, ça va pas vraiment les arrêter. Le grincement nous renseignera sur leur approche. Nous fîmes halte, tendant l'oreille. Nous finîmes par entendre le bruit de leur cavalcade doublé des gémissements du chien restant. Ils étaient toujours à nos trousses. Nous repartîmes à toutes jambes. Je commençais à avoir le goût du sang dans la bouche. La sueur me coulait dans les yeux. La deuxième grille apparut au détour d'un virage. Nous la refermâmes également. En arrivant à la porte du moulin, Nathan ramassa les tiges et les plaça dans leurs encoches. Ils approchaient rapidement. Une série de coups de feu retentit, mêlés au son de leurs voix affolées. « Je te parie qu'ils sont entre les aimants. » Il se croit attaqué. Il y eut encore 8 coups de feu. Il parlait fort. On entendait l'échappement du chien qui lui aussi s'énervait. « À ton avis, ils sont combien ?»« À l'oreille, 3. » »« C'est ce que je pense aussi. » La première grille grinça au loin. J'étais arc-bouté sur la porte-bouclier, prêt à pousser. Nathan fit glisser la dernière tige et appuya sur les têtes. Le mécanisme joua. Un autre cri vint couvrir le grondement du torrent. Comme tout à l'heure, encore les oubliettes. On entendait les plaintes de douleur d'un chien et deux voix qui appelaient, cette fois encore, sans réponse. La porte du moulin s'ouvrit enfin. Nous nous engouffrâmes, la claquant derrière nous. À l'extérieur, les tiges s'éjectèrent et tombèrent dans un fracas métallique. Ils ne sont plus que deux. Ils ne franchiront pas cette porte avant qu'on la leur ouvre. Nathan balaya l'intérieur du moulin avec sa lampe, l'air concentré. « C'est quoi ton idée ?» demandai-je. « On pourrait attacher une des tables entreposées dans les maisons au bout d'une corde fixée au-dessus de la porte. Dès qu'ils entrent, on la leur balance à la tête, à la manière d'un bélier. » Nous n'avons qu'une corde. L'un de nous devra rester à la fenêtre du bâtiment, prêt à lâcher le meuble, pendant que l'autre ouvrira la porte. J'ouvre la porte, tu lâches le meuble. Non, Nathan, tu es plus fort que moi et je connais mieux l'endroit. C'est toi qui lâches le meuble et moi qui ouvre. On le connaît aussi bien l'un que l'autre, cet endroit. De nous deux, c'était quand même lui le plus fort et les coups de feu qui criblèrent la porte en rafale ne nous laissèrent pas le temps de tergiverser davantage. J'escaladai la porte sur laquelle nos assaillants continuaient de tirer. Je sentais l'impact des balles au travers des épaisses couches de métal et de bois. Nathan avait déjà rejoint le premier étage du bâtiment le plus proche et entrepris de traîner une table vers la fenêtre. En m'aidant des anfractuosités de la roche, je parvins à grimper plus haut et à fixer la corde à un piton scellé au-dessus de la porte. Je sautai au sol et lançai l'autre extrémité à Nathan. Il l'attacha autour du plateau de la table qu'il avait calé dans l'encadrement de la fenêtre. Les coups de feu cessèrent. Ils sont capables de faire sauter l'entrée. On n'a plus le temps. Bonne chance et vise bien. Tu vas te planquer où ? Dans le bâtiment d'en face. Toi, dès que tu peux, tu te caches et tu ne bouges plus. J'approchai de la porte. Je fis signe à Nathan d'éteindre sa lampe et il s'exécuta tout en maintenant la lourde table en équilibre. J'avais la main sur le levier d'ouverture de la porte. La veille, la cité était pleine de la fine fleur de la technologie, et ce soir, nous en étions réduits à faire des bricolages de scouts. La vie impose parfois d'étranges épreuves. J'abaissai le levier d'un coup sec. La porte se débloqua. je me précipitai vers la fenêtre de la bâtisse et me propulsai à l'intérieur. Pendant quelques secondes, il ne se passa rien. Rien du tout. Le sang me battait aux tempes. Le flot du torrent meublait le silence et l'obscurité. Nous n'avions que deux façons de sortir de cette aventure. Soit mort, soit proche comme peu d'amis l'ont été. Il n'est que le temps pour sanctifier les amitiés, le temps ou les épreuves. Celle qui nous attendait dépasserait de loin le poids des ans. L'urgence qu'imposait cette mission était une arme à double tranchant, la chance d'une vie ou la perte de deux. J'aperçus enfin leur lumière par l'entrebâillement. Un violent coup de pied acheva d'ouvrir le lourd battant. Le faisceau balaya le pas de la porte. Je ne distinguais pas grand-chose. Je me trouvais à environ 6 mètres d'eux. Je vis juste un bras armé passer à l'intérieur et tout arrosé au pistolet mitrailleur. La pétarade assourdissante couvrit le bruit de l'eau. Les balles sifflaient, perforant les boiseries, ricochant sur les pierres ou se perdant dans l'immensité du moulin. Le mitraillage finit par cesser et le faisceau pénétra un peu plus avant. Une voix s'éleva, une voix que, malgré le grondement du flot, je reconnus immédiatement. « Je sais que vous vous cachez dans cette pièce. Sortez, et nous ne vous ferons aucun mal. » Comment cet imbécile de Zillerman pouvait-il nous servir pareille banalité? Il allait lui falloir du temps pour comprendre. Il ne savait ni combien nous étions, ni de quelles armes nous disposions, et encore moins dans quel lieu lui et son acolyte débarquaient. Il n'y avait que Nathan et moi pour savoir que nous étions seuls, armés d'une table et dans un cul-de-sac. Nous n'avions pas intérêt à gâcher notre effet de surprise. Une silhouette franchit la porte et disparut dans l'ombre du battant resté fermé. Plus rien ne bougea pendant quelques secondes. La voix de Karl résonna à nouveau. Il était resté dehors et tenait la lampe. Courageusement, il avait envoyé son acolyte lui ouvrir la route. Il devait avoir une sacrée pression. Avec deux hommes et apparemment les chiens aux oubliettes, il était certainement aux abois. Voilà donc l'endroit que vous aviez si peur de nous voir approcher. Il ajouta un ordre bref, et l'homme qui avait franchi la porte alluma sa torche. Je crois que je vis la table surgir de nulle part au même instant que lui, trop tard pour qu'il puisse l'éviter. L'épais plateau de bois massif percuta son crâne de plein fouet. Il n'eut même pas le temps de crier. Sa lampe vola et je vis son ombre s'affaisser. La table se balançait maintenant en raclant la porte. Karl n'avait pas réagi. Le faisceau de sa lampe éclairait le meuble suspendu. Dans la lumière, il me sembla voir du sang sur un coin. Nathan n'avait pas manqué son coup. Zillerman appela son comparse. Aucune réponse. Son bras repassa la porte et mitrailla à nouveau les alentours. Il était seul, mais d'autant plus dangereux. Au premier geste de notre part, il nous tirerait comme des lapins. Le fond sonore qu'assurait la rivière nous permettait des déplacements discrets. Notre seule chance était de l'obliger à entrer. Sa lampe balaya les abords de la porte. Je traversai la bâtisse par l'intérieur pour m'approcher de la rivière. J'espérais que Nathan aurait la même idée. L'idéal serait de se jeter dans le torrent pour se retrouver au laboratoire et gagner du temps. Karl n'oserait jamais nous suivre dans le flot. J'enjambai la fenêtre qui donnait vers les meules à grains. De là, je rampai vers les bassins et la roue à aubes. Zillerman n'avait toujours pas bougé. Par moments, il me semblait entendre sa voix. Il devait encore essayer de nous avoir avec des arguments de voyante de foire. Je vis la silhouette de Nathan descendre par la fenêtre de son bâtiment. Il courut ensuite le long de la paroi jusqu'à un petit ouvrage de maçonnerie. Nous n'étions qu'à une vingtaine de mètres l'un de l'autre. Le faisceau de la lampe de Karl balayait l'espace à la manière d'un projecteur anti-aérien. Je devinai Nathan allongé le long des pierres. Il hurla alors un seul mot.
« Labo !»
Avec le torrent, il était probable que Karl n'ait même pas entendu. Je lui répondis de la même façon,
Oui.
Quelques secondes plus tard, Nathan se releva et s'élança à toute vitesse vers les bassins. Le faisceau de Karl le repéra et il balança aussitôt une rafale d'armes automatiques. Les balles sifflèrent autour de lui. La distance rendait la visée difficile, mais l'arrosage systématique du secteur allait bien finir par le toucher. Par réflexe, j'allumai ma torche en direction de Karl pour l'éblouir et attirer son tir. Ses balles criblèrent les meules de pierre derrière lesquelles j'étais dissimulé. Alors que je me retournais pour vérifier que Nathan allait bien, j'eus juste le temps d'apercevoir son corps inerte voguer au fil de l'eau pour disparaître dans le boyau, emporté par le torrent. Le sage avait eu raison pour la violence et le sang. Je tenais la lumière à la main et j'avais peur que la mort ne soit déjà sur nous. Son intuition prenait des allures de prophétie. Que Zillerman ait pu tuer Nathan me rendait fou. J'allais me relever et buter cet enfoiré de mes propres mains. Les balles pleuvaient toujours. J'aurais donné 10 ans de ma vie pour savoir si mon ami était encore en vie. La fatigue, la peur, l'angoisse de te perdre et la rage de savoir que ces salopards pouvaient avoir le dessus au mépris de toute justice ont bien failli me faire perdre la raison.